Bon, je suis assez nul avec tout ce qui est ordinateur, donc il y a un expert qui... Là, je vois bien le... Ah, bah, je fais la même chose, donc... mais je n'ose pas à chaque fois. Hein. Ce qui a changé, c'est que là, pour la deuxième fois, avant, j'avais que de grandes images. Donc, sinon, ah, voilà. Ok. On est presque là. Presque. J'ai fait exprès pour être en anglais. De rien. Ah, et voilà, parfait, impeccable. Ouf, bravo. Non, rien dans cette poche. Ah, je suis désolé, hein, donc je te paie avec ça. Voilà, Martin Luther. Mais avant que je commence avec Luther, juste quelques détails. Même pas les détails, c'est un peu à côté. Mais encore, hein, je savais déjà, c'est pas la première fois que je suis venu ni dans cette église, ni à Paris, ni à Saint-Denis. Mais juste pour blaguer, mais la première fois que je suis venu ici à Saint-Denis, je regardais un peu à gauche, à droite, et j'ai dit la suite. Mais on m'a menti, hein. Il n'y a aucune voiture qui brûle, il n'y a rien d'ici. Il me semble que c'est assez normal. Parce que quand on n'habite pas ni à Paris, ni à Saint-Denis, d'autres endroits, quand on est très éloigné, on a certaines idées préconçues, surtout à cause de la télé. Mais en même temps, ce que je savais, je vois de nouveau. Soit vos parents, ou soit vos grands-parents, soit ni l'un ni l'autre peut-être, ils ne sont pas nés en France. Combien sont dans ce cas-là? Pas mal, hein? Vos parents ou vos grands-parents sont nés dans d'autres pays, d'accord? Et donc, une des choses que je vais essayer surtout de faire à la fin, c'est qu'il est très facile de présenter la réforme par la suite. Ça concerne l'Europe et ceux qui ont ma peau. Et ça, c'est très, très grave. Parce que l'Évangile n'est jamais l'Évangile de ceux qui ont la peau blanche. Point final. Et d'ailleurs, il me semble, c'est assez certain que Jésus n'avait pas ma peau. Il semble que Jésus avait la peau assez matée. Hein. Et donc, La petite blague, nous les Blancs, on dépense des millions pour avoir la peau un peu plus brun, et certains sont nés avec la peau parfaite. Donc, vous m'énervez, mais ça va, hein, j'arrive quand même à gérer tout ça. Bon, je trouve ça toujours assez marrant hein, qu'il y ait une monde de personnes blanches comme moi qui payent d'avoir la peau qui change de couleur. Et à La Rochelle, on voit ça en été, c'est phénoménal. Donc, on voit les Parisiens, c'est ceux qui sont dans leur tente ou dans la cabine, jusqu'au petit-déj, ensuite ils passent 18 heures à la plage et ils rentrent après dans la tente. Donc, ils ne font que ça. Mais le problème, c'est, bon, la réforme a commencé en Europe. Ça, c'est indiscutable. Mais il y avait des chrétiens dans d'autres continents et Jésus a fait d'autres choses dans d'autres pays. Mais ici, c'était quand même un moment assez exceptionnel. Le dernier enseignement, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, je crois, franchement, assez facilement, je peux vous donner la preuve que je suis ici aujourd'hui grâce à Martin Luther. Il y a une ligne directe dans ma vie. Mais pour la plupart de vous, c'est quand même honnêtement la même chose. Parce que je constate à peu près les continents qui sont de vos origines. Hein. Et je sais qui sont allés là-bas pour évangéliser, pour prêcher, pour parler des choses de Dieu. Et encore, il y a une ligne directe. Donc, si vous n'êtes ni né en France ou si vos origines sont de d'autres continents, d'autres pays, en même temps, ce qui est vraiment bien avec cette idée de la réforme, c'est quand Dieu, on voit quand Dieu a travaillé dans les cœurs des hommes, les hommes et les femmes. Et quand on voit quand Dieu, il transforme, parfois ça change, non parfois, à chaque fois ça change une vie, parfois ça change une famille, parfois une ville et parfois tout un pays. Et donc, je vous encourage de continuer d'évangéliser, de donner une Bible, de parler de Christ. Parce qu'en fait, au moment où la France a été transformée, on a un roi qui est infidèle à sa femme, mais d'une manière phénoménale. On a les prêtres qui vivent n'importe comment. Et on voit, à ce moment-là, spirituellement, c'était que des ténèbres. Et c'est là quand Dieu a frappé. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est meilleur, hein, mais on voit que Dieu travaille en ce moment dans d'autres pays, et donc Dieu n'est jamais limité. Donc il faut attendre quand on donne cette Bible que Dieu peut transformer la vie devant moi et tout un pays. Donc voilà, je ferme la page publicité pour évangéliser et tout ça. Voilà, Luther. Donc, il est né le 10 novembre 1483. Qui est, vous voyez, j'ai fait le prof d'histoire. Il est né 1483, ça va être sur l'examen, il faut mémoriser. Bon, ok, d'accord. Mais c'est fascinant ce que Timothée a dit. Je trouve ça ridicule qu'un expert Luther ait été choqué par le fait que Luther ait cru que le diable existait. Pour quelqu'un d'aujourd'hui, ok, ça je comprends. Mais quand on voit le contexte de la vie de Luther, il était vraiment un homme avant la Renaissance. Donc c'est-à-dire que le moment de sa naissance, tout le monde était vraiment dans une mentalité du Moyen-Âge. Donc c'est-à-dire que j'ai un rhume, mais c'est quel démon qui m'a donné ça? Et je parle des non-chrétiens, hein, entre guillemets, non-chrétiens. Ils sont tous chrétiens, ils sont tous nés en Europe, donc voilà. Mais je parle du fait que certains qui habitaient le forêt après minuit ou après le coucher de soleil, parce qu'on sait que c'est là où habitent les démons, donc ils mangent nos enfants. Et c'est de quelque part comme les dessins animés de Disney qu'on voit avec dans la forêt, le monstre qui est toujours comme ça. Ça a été la mentalité de l'époque, sauf dans la forme réelle. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas juste Walt Disney qui crée ça pour un dessin animé. Il disait, non, mais ça, c'est du vrai. Hein. Parce que le frère de mon cousin, de mon oncle, de machin truc, il est entré dans la forêt, il n'est jamais revenu. Hein. Donc, forcément, il était mangé par un démon. Bon, peut-être, mais ça a été compris à l'époque comme une vraie réalité. Et bon, entre guillemets, j'ai toujours grandi dans l'Occident. Je suis né aux États-Unis, ensuite j'ai passé la plupart de ma vie d'adulte ici en France. Donc, tout ce qui est occulte, tout ce qui est démon, tout ça, honnêtement, pour être très sérieux, ma vie est assez éloignée de ça, dans le sens que ce n'est pas ni du quotidien, ni quelque chose d'assez connu. Hein. Mais dans, franchement, la plupart de notre monde aujourd'hui, les gens, ils savent, surtout les non-chrétiens, ils sont complètement convaincus et ils voient que c'est une réalité, que les démons sont présents, les démons font des choses. Et Luther, il est dans ce contexte. Donc, il est né aussi un nouveau-né, un nourrisson qui va être amené à l'église pour être baptisé. Ses parents sont les fidèles de l'église, pas les fanatiques, mais tout le monde, à son époque, s'adhère à l'église catholique. Donc voilà, ça c'est sa maison natale. Et bizarrement, il est mort dans la même ville. Hein. Ça, bon, c'est un détail d'histoire. Ses parents. Il y a une semaine, j'ai présenté cette photo pour une retraite de quelques églises. Et j'ai dit, voilà, il semble être bien allemand, là. Les parents très sévères. J'ai dit, alors, on a quelqu'un ici qui est allemand. Je disais des petites blagues sur les Allemands. Janine Desil. Je suis moitié allemande. Voilà. Donc, on a les Allemands parmi nous? Ah, excellent, je peux sortir toutes mes blagues allemandes. Mais c'est marrant, hein, ça. Et encore, hein, bon, blague à peur, ça donne vraiment une image de deux personnes qui sont dures. Mais avec une vie dure, avec une vie qui est toujours, pas toujours très facile. Donc, bon, Les parents de Luther n'étaient pas du tout pauvres. D'ailleurs, son papa, en fait, il gérait des mines dans la commune où il habitait. Donc, c'était un homme d'affaires, il avait des moyennes. Mais même pour les riches, la vie n'était pas facile. Et bon, c'est des choses basiques, logiques. Pas de frigo, pas d'électricité. Mais aussi, constamment, la menace de la mort, constamment l'idée de chercher quotidiennement à quoi manger. Donc, même pour ceux qui avaient des moyennes, la vie était beaucoup plus dure qu'on imagine aujourd'hui. Donc, Luther, il est né dans une famille comme ça, il était le deuxième de 8 enfants. Et donc, il a fait ses études. C'était un enfant pas spécialement brillant, mais quand même intelligent. Donc, il a bien avancé dans sa vie avec l'école. Tout jeune, mais nouveau-né, il est amené dans cette église parce qu'il n'y a pas de choix. C'est le pays catholique. Donc, baptisé, nourrisson dans cette église-là. Il y avait un moment de sa vie, et c'est quelque chose que je vais toucher un peu plus. Donc, je cite juste un petit détail. Mais il faisait, à 17 ans, il est allé dans une fac, Erfurt, dans une ville en Allemagne, où, en fait, il voulait être avocat. Et c'est là, juste, j'ai cité là avec Guillaume Joubert, à La Rochelle, il voulait être avocat parce que son papa était avocat. Avec Luther, ça a beaucoup changé. C'était vraiment exceptionnel. Si je dis 99%, peut-être j'exagère et c'était presque 100%. Hein. Mais tous les cas que j'ai toujours entendus à ce moment-là, et honnêtement, jusqu'à assez récemment, papa, il est avocat, ben moi aussi. Ben papa, il est pompier, ben moi aussi. Papa, il est policier, mais moi aussi. Il y avait que ça. Pourtant, le papa de Luther, il avait une autre mentalité. Et c'est lui qui a poussé son fils à faire ses études de droit. Donc, il entre à la fac. Là, il était quand même un bon élève. Il a beaucoup bien travaillé. Donc, il a eu un master assez jeune. Et donc, il y avait un moment donné, et c'est un peu compliqué pourquoi cette chose s'est passée. Mais en fait, il avait un moment d'angoisse. Et je vais revenir sur cette angoisse qui était dans la vie de Luther. Mais en pleine étude, il a quitté sa fac et il marchait à pied jusque chez lui, en plein juillet 1505. Et là, en plein marche, c'était en plein été, il y avait un orage, une tempête carrément qui est arrivée, avec les éclairs qui touchaient tellement proche de Luther qu'il était carrément poussé par terre. Et là, il croyait qu'il allait mourir, mais il était sûr et certain. Donc, il fait un appel, je vais parler de cet appel après, et donc il dit, si ma vie est sauvée, je vais être moine. Et voilà, sa vie était sauvée. Donc, on a ça tiré de film Luther qui est sorti il y a quelques années. C'est pas mal, le film représente bien sa vie. Et donc, voilà, cet endroit qui est toujours là, avec la petite stèle qui se rappelle que Luther a fait vraiment un grand choix dans sa vie. Son père était furieux. Mais son père, il était fâché et on n'a pas les écrits, mais des soupçons plutôt. Ben à ce moment-là, il n'y a pas de sécu, hein. Pas de retraite. La retraite, ça s'appelle les enfants. Et d'ailleurs, je veux bien que mes enfants soient ici ce matin. Hein. Il faut mettre à côté déjà tout de suite parce que moi, j'ai besoin d'une maison indépendante. Donc, mais c'était ça. Hein. Donc, Luther, le papa de Luther a compris, si mon fils devient avocat, il est un peu mieux payé, donc ma retraite peut être un peu plus tranquille. Il est certainement cette idée, mais aussi d'autres, juste la fierté d'avoir un fils qui avance un peu. Et Luther, il a tout rejeté après ce moment-là. Et dans la même ville où il faisait ses études, il entre dans un monastère. Donc, si vous êtes germanophone, régalez-vous, mais... J'ai peur que je vais blesser ma langue si je dis ce mot-là. Donc, c'est là qu'il a fait. Et voilà, donc, ce que ça donnait à l'époque, donc, il devient moine. Voilà, donc, une fameuse image de Luther qui entre, mais avec un but très précis, sa vie était sauvée, donc il allait se consacrer davantage vers les choses de Dieu, pour être plus proche de Dieu, mais aussi comme acte de remerciement du fait que sa vie était sauvée. Donc, il entre là, voilà, donc il fait le total, il rase la partie haut de sa tête et il s'habille correctement. Et Luther entre dans quelque chose qui était déjà un peu son habitude, mais là, maintenant, c'est multiplié par qui sait combien. Mais c'est une consécration, mais pas juste à les études d'avoir une grosse tête, mais pour être plus proche à Dieu. Mais en fait, sa vie, à ce moment-là, était complètement donnée d'ajouter que des bonnes œuvres dans sa vie pour être encore et encore et encore plus proche de ce Dieu qu'il aimait et qu'il détestait en même temps. Et c'est ça qui est frappant. Il y a un écrit de Luther qui a dit « Le plus que j'approchais de Dieu, le plus que je faisais des choses, le plus que j'ai eu une haine contre Dieu. » Et vraiment, il détestait ce Dieu-là. Parce qu'il disait « Le plus que je fais, le plus que je vois le mal en moi. Le plus que je comprends que je ne suis, je ne serai jamais parfait. » Et donc voilà, il y avait donc ces moments de crise, ces moments d'angoisse où il dit « Si je peux être juste plus fidèle dans le catholicisme et ma religion, je peux approcher de Dieu, les angoisses en pleine nuit. » Et là, Luther, il a employé un mot. Donc, encore, je sais dans ce mot, il y a un « rach » et un « rach ». Donc ça, c'est la limite de l'allemand que je connais. Donc, quand je suis enrhumé, mon allemand est nickel. Hein. Guten Tag. C'est... Voilà. Donc, alors, ce mot veut dire quoi? Bon, moi, l'expert d'allemand, ce que j'ai compris, certains pensaient que ça a été plutôt l'idée d'être tenté ou mis à l'épreuve, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est le principe d'un assaut ou une attaque, mais d'angoisse, de dépression, de terreur. Et c'est l'idée d'être complètement submergé, dans une déprime, mais aussi avec la frayeur. Donc, c'est-à-dire qu'on tremble. Et bon, je crois qu'on peut presque dire aujourd'hui, c'est des crises de panique. Mais des crises de panique spirituelle, mentale, de tous côtés. Et Luther disait, il vivait sans cesse, continuellement, les choses comme ça. Et le plus qu'il lisait sa Bible, le plus qu'il faisait des choses, le plus qu'il y avait ces crises comme ça. Et donc, il y avait des choses qu'il faisait. Donc, d'abord, il confessait. Et en fait, il y avait un prêtre dans le monastère qui était son confesseur. C'est l'homme qui écoutait les confessions de Luther, qui parfois durait 2-3 heures, où Luther, il vidait son âme. Oui, là, hier, j'ai eu 3 coups de jalousie, et après, un peu d'haine. Mais pendant 2-3 heures, il parlait comme ça. Et donc, vous imaginez cet homme qui est obligé d'écouter Luther, et c'était son boulot. Hein. Il a fallu écouter toujours les confessions de Luther. Donc après, Luther disait qu'il énervait cet homme sans cesse. Il confessait pendant 3 heures, il rentrait dans sa chambre, et 3 péchés sont revenus dans ses pensées. Donc il a recherché son homme, et écoutez, j'ai oublié 3 choses, donc on peut entrer dans le confessionnel. Et... Donc, Luther, il y avait aussi une citation, il disait, avec Luther, il s'était mûr d'avoir la confesseur dans sa poche. Un petit bonhomme, il a pu sortir comme ça parce qu'il confessait sans cesse. Jamais trouvé la conscience tranquille. Il vivait, avec toutes ses confessions, il ne vivait que la culpabilité. Après, il se privait de la nourriture, mais prêtre aussi, il se privait des femmes. Donc, il jeûnait, il était célibat, mais ça a été dans un sens, c'est normal, c'est un prêtre, mais aussi pour Luther, en fait, il faisait ça à l'extrême. Donc, à l'extrême avec les femmes, ça ne veut rien dire, hein, je ne couchais pas avec les femmes, mais avec la nourriture, il était très rigide dans ce qu'il mangeait, toujours en disant, je me prive, je suis plus proche à Dieu. Donc, c'est sans cesse, continuellement, je fais et je fais. Et je fais, et un jour, je vais faire juste assez. Et Dieu, il va dire, là, je suis apaisé. Il se flagellait. Donc, bon, se flageller sur Google et on trouve ça. Il n'y a pas d'image de Luther. Et d'ailleurs, je suis assez content. Ça. Mais il s'est fait mal, mais il s'est fait très mal. Hein, en disant, j'ai péché, je mérite la punition. Et il se punit comme ça. Mais en pensant que si je fais assez encore, je peux arriver jusque-là. Il y avait ensuite, en 1510, Luther était envoyé à Rome. Donc il y avait plusieurs choses qui s'est passées lors de ce voyage. Il arrive là, à Rome. Il a trouvé la Scala Santa. Donc, si vous êtes anglophone, ça fait un peu drôle, la Santa, donc c'est pas Père Noël, c'est le Saint-Escalier, qui, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rome, et je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais ça existe aujourd'hui, hein. C'est un endroit. La tradition dit qu'en fait, lors des croisades, il y avait des soldats de l'Europe qui ont trouvé les escaliers de le prétorium où Jésus a marché lors de son procès. Donc, ils ont ramené ces escaliers à Rome. Et aujourd'hui, si on grimpe sur ces escaliers, on peut gagner un peu de justice. On peut gagner la faveur de Dieu. Donc, on est à midi 20 là. À midi 20, aujourd'hui à Rome, normalement, il y a des gens à genoux qui grimpent là. Mais en ce moment, parce qu'à chaque instant que c'est ouvert, il y a des personnes qui grimpent. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, encore tiré de ce film Luther, donc si vous avez vu le film, ils n'ont pas trop expliqué ce qu'il a fait, mais à un moment donné, Luther, il vient là, il achète une indulgence que je vais parler à tout à l'heure, mais il commence à grimper l'escalier. Donc, c'est peut-être pas la pire peine de la vie, et en même temps, de grimper des escaliers en pierre à genoux, ça fait pas du bien. Hein. Et il a dit après dans les écrits, en grimpant sur ces escaliers, il était aussi en même temps dans les études du livre de Romains. Il n'est pas chrétien de tout à ce moment-là. Un verset qui arrive dans sa tête, « Les justes vivra par la foi. » Et qu'est-ce que je fais ici? Parce que Luther était dans le problème de « sola fide, la foi seule ». Et il était confronté avec la suite. La source de la frustration de Martin Luther se trouve dans Éphésiens 2, 1 à 9. Donc, si vous avez vos Bibles, il y a deux grands principes dans ces versets. D'abord, l'apôtre Paul, il dit, c'est à partir de verset 1, « Quant à vous, vous y étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés, et ensuite. » Donc, vous y étiez morts spirituellement, vous êtes morts, vous n'êtes pas un être vivant spirituellement devant Dieu. Dieu vous regarde, il ne voit rien, il voit quelque chose qui n'a pas de vie. Et ensuite, ça dit, mais vous avez été rendus à la vie. Donc, c'est plus tard dans les versets-là. Et Luther, il a compris ce principe-là. Spirituellement, je suis mort, ça je comprends. Je vois dans ma vie, j'ai une tendance à faire le mal, je vois dans ma vie que je ne cherche pas toujours de faire la volonté de Dieu. Et je sais que moi, moralement, spirituellement, dans un sens, je suis mort. Mais je veux être à la vie. Je veux être spirituellement vivant. Donc, comment? Et c'est ça la grande question. Mais dans ce passage, c'est assez intéressant. On va prendre juste quelques minutes de voir qu'est-ce que ça veut dire d'être mort spirituellement et ensuite d'être vivant spirituellement. Donc, vous étiez mort. Donc, on voit six choses. D'abord, ça parle de vos fautes et de vos péchés. Et avec l'idée des fautes, c'est de tomber à côté de quelque chose ou de tomber près de quelque chose. Et ensuite, avec le péché, c'est de rater la cible. Donc, dans les deux sens, c'est qu'on voit cette image. Dieu, il est là. Et pour être vivant spirituel, pour être avec Dieu, ben, c'est assez logique que nous, on est là aussi. Donc, Luther était dans ce système, il faut que je fasse. Et si je peux faire assez, ben là, ça peut tout changer. Le problème, l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, il dit non, vous êtes mort à cause de ces choses, à cause de vos fautes et à cause de vos péchés, le fait que vous ratez la cible, vous n'êtes pas là où vous devez être. Et vous faites tous vos efforts et vous allez vous trouver toujours dans le même endroit. Ensuite, il dit... que vous pratiquez, donc vos fautes et péchés que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde. Je sais, dans le second 79, c'est traduit un peu autrement que ça, mais quand il dit « vivre de ce monde », ce mot « monde » est donc... un détail très, très rapidement. La deuxième année que j'ai fait mes études dans l'Institut biblique, j'ai pris un cours de grec. Et là, maintenant, je vais vous montrer, et je peux faire facilement, la note que j'ai eue à la fin de ce cours. À 0 sur 20. Donc, il ne faut pas trop applaudir. Hein, ça. Le gros souci, c'est mon prof, il m'a donné 3 occasions de rattraper. Et après les 3 rattrapages, 0. Donc, et heureusement, Dieu, il a créé l'ordinateur. Donc, heureusement. Et après, j'étais un peu plus sérieux, donc j'ai fait le cours pour la 2e fois. Et j'ai eu tellement honte. Hein. Le prof, tu étais là l'année dernière? Oui. Et il le savait, mais il a dit pour m'embêter. Donc. Mais donc, c'est pour, quand, il faut que je dise ça parce qu'en fait, quand je cite ce que ça veut dire ce mot, il ne faut pas dire, oh, quelle grosse tête. Non, il a un ordinateur. Donc, ce mot vient du mot cosmos. Parce que j'ai fait 13 ans de grec. Non, j'ai tapé cosmos. Ça veut dire quoi? Donc, un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre. Ou ça part de l'esprit de l'époque, mais ok, d'accord. Cosmos, cosmétique, de mettre de l'ordre. Cosmonaute, qui sort de notre monde. On sait ce que ça veut dire dans un sens de cosmos, ce monde, de vivre selon ce monde. Et après, qui est conformément au prince de la puissance de l'air, Satan. C'est-à-dire que Satan, il a mis sur cette planète un système, ce monde, l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas chrétien, sauvé par la grâce de Dieu, et on est jeune et on fait ses études, pourquoi, normalement? Pourquoi les jeunes, ils font des études? L'argent. Oh non, non, c'est pour travailler, parce qu'on est, on aime tous nos entreprises et nos patrons. Et, oui, c'est ça. Parce qu'on est payé. Et avec l'argent, c'est la voiture, grande télé. Ça arrive, n'est-ce pas? Et c'est déjà là depuis longtemps. Donc, il y a un système de ce monde dirigé par Satan. Et quand on est mort spirituellement, on y est. C'est là qu'on habite. Par nos fautes, on vit selon ce monde dirigé par Satan, qui ensuite, ça parle des hommes rebelles, à la fin de verset 2, de l'esprit qui actuellement a l'œuvre parmi les hommes rebelles qui ne font jamais la volonté de Dieu, ou très, très, très peu. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ensuite, nous tous, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est moi. Moi, je dirige ma vie. Ce n'est pas ni à toi, ni à un livre comme ça, mais c'est ridicule de suivre un livre comme ça. C'est l'esprit de ceux qui sont morts spirituellement. Et donc, finalement, on voit une triste réalité. Vers la fin de verset 3, ils font sur leur propre nature. « Puisque nous accomplissons la volonté de la nature humaine, de nos pensées, et nous y étions par notre condition même destinés à la colère, c'est-à-dire la fin, c'est l'enfer. » Et c'est ça qui se passe quand on est mort spirituellement. Et Luther se trouvait là. Et il ne voulait pas être là. Donc, dans son système à lui, il a fallu travailler. Mais ici, on voit ce qui se passe quand on passe de la vie avec Dieu. Et là, juste pour avancer, parce que je vois que malgré tout, l'horloge, ça tourne. Hein. Donc, le plus rapidement possible. Quand on est rendu vivant en Dieu, verset 4, Dieu, il fait ça comment? Dieu, il est riche en compassion, miséricorde. Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Dieu ne donne pas ce qu'on mérite. Donc, c'est-à-dire qu'il est compatissant. Il est miséricordieux. Ensuite, à cause de son grand amour, c'est ce fameux amour où on donne 100% sans rien attendre de retour. Dieu, il donne grâce à sa nature. Parce que ce qu'il est, il donne son amour. Ensuite, verset 5, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce. Je dis rien parce que ça, c'est le prochain message. Sola gratia. Donc, par la grâce de Dieu, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, on est rendu à la vie et on est promis une vie éternelle. Donc, d'un côté, on a tous ces aspects, ces caractéristiques de quelqu'un qui est mort spirituellement, mais de l'autre côté, la personne qui est vivante en Dieu. Alors, comment ça se passe? Dans les pensées de l'époque avec Luther, c'est on fait et on fait et on fait et finalement, on va mériter ça. de passer ces deux choses-là. Mais la Bible nous dit la suite. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est une conviction ou confiance de la vérité de quelque chose, être persuadé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il y a un petit débat avec le mot « cela ». Ça parle de quoi? La foi, la grâce. Moi, je suis assez convaincu que c'est l'ensemble de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe là, à partir de verset 4. Tout ce que Dieu fait, sa grâce, son amour, sa compassion, tout ça, c'est un don de Dieu. Et Dieu demande simplement que le pécheur, la personne morte spirituellement, qu'il arrive avec les mains vides et qu'il dit la suite, « Sauve-moi ». Je mets ma confiance. J'ai une pleine conviction que Christ est mort pour moi, spécifiquement pour mes péchés. Et Dieu, je demande maintenant que tu me pardonnes grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ a pris ma place, il a pris mes péchés. Et ça, simplement, j'ai fait ça par foi. Donc, j'ai un soupçon. J'ai un soupçon que je suis en train de prêcher aux convaincus. Parce que franchement, il se peut qu'aujourd'hui, ce matin, peut-être vous n'êtes pas chrétien, c'est tout à fait possible, mais la chose qui m'empêche avec ça, c'est que vous êtes ici à 10 heures du matin pour écouter l'histoire, au lieu d'être au lit. Donc, normalement, vous êtes soit très, très convaincu, ou vous avez un ami qui est très convaincant, qui a tordu le bras. Allez, on va à l'église, samedi, 10 heures du matin, pour écouter un étranger qui va parler de l'histoire de la France et de l'Europe. Bravo. Hein. Donc, il me semble, c'est tout à fait probable que vous, vous êtes déjà convaincu de tout ça. Mais il y a toujours une toute petite possibilité que vous êtes né dans une famille chrétienne, amené à l'école du dimanche à 2 mois. Hein. Donc, à 2 mois, l'école du dimanche, ça ne fait pas grand-chose, mais on chante quand même « Jésus m'aime ». Et ça entre dans les oreilles et voilà, c'est tourné dans la tête depuis pendant 20 ans. Et donc, vous êtes ici aujourd'hui parce que ben, je ne connais pas d'autre chose. Hein. Et je trouve que la café était chaude et, chaud et que la pâtisserie était bien sucrée. Et l'église, hein, ça va, hein, pourquoi pas? Et juste peut-être, vous n'avez pas encore mis votre confiance entièrement sur la personne de Jésus, ben, c'est le moment. Et c'est tout. Je l'ai dit une fois, et je peux le dire 100 fois, et ça change rien. Après, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille là. Donc, je ferme la page, d'accord? Et on va passer, donc, sola fide, par la foi seule en Christ, Christ que nous sommes justifiés, c'est le seul moyen qui nous est donné. Donc, on va changer, on va voir la grâce seule, sola gratia. Normalement, je suis censé terminer à minuit. Oui, j'ai mon train à 19h30, donc ok. Martin Luther. Et donc, on change de sujet, mais toujours dans l'idée de Luther. Comme je vous ai dit, Luther est né et Luther était vivant pendant l'époque où Léon X est le pape de l'Église catholique, donc encore son éléphant. Tapez sur Google Léon X, son éléphant et la mort de son éléphant. J'ai grandi à la ferme. Donc, pour moi, c'était... moi, j'ai rigolé, mais quand on grandit à la ferme, on est légèrement bizarre. Mais il a mal mangé, et ça, c'est mal passé. Donc, c'est horrible ce qui s'est passé. Mais encore, son éléphant, c'est quoi? C'est une Ferrari de l'époque. Vous êtes venu en éléphant? Moi, oui, hein. Mais je suis pape, hein. Avec toutes mes bagues et la belle robe, et ma mon nouvel véhicule, hein, mon éléphant. Et, non, mais vous voyez, il n'y avait aucune autre personne qui possédait un éléphant comme ça. Donc, un homme qui aime l'argent, ben, là, ça, c'est le meilleur cadeau sur la planète. Aussi, aujourd'hui, on peut voir la basilique Saint-Pierre à Rome. Ben, on sait qui a fait ça ou qui a commencé ce travail. Léon X. Parce que si je fais le plus beau bâtiment, la plus belle église de toute l'Europe, ben voilà, je peux marquer mon histoire. Je peux être reconnu, connu depuis, pour toujours plutôt, comme le meilleur pape. Mais aussi, c'est une question d'argent. Après, il y avait des fêtes où, et encore, hein, je n'entre pas dans les détails, il y a une triste passé qui... malheureusement, a aussi touché l'Église catholique assez récemment, mais une question des papes et des jeunes garçons. Hein. Ce n'était pas juste luxe, éléphant et tout ça. Il y a aussi un côté de ces richesses très sombre. Et là encore, ce n'est pas pour juger, parce que malheureusement, dans le milieu évangélique, on a eu aussi nos propres histoires. Donc, il faut faire toujours attention, ni de trop jeter les pierres, mais aussi de faire attention de soi-même. Mais lui, il est entré dans tous ces types de débauches parce que c'est une manière de montrer sa richesse. Et donc, avec tout ça, il faut de l'argent. Et donc, les indulgences. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Surtout si vous avez un arrière-plan catholique, peut-être ça dit quelque chose. Les indulgences existaient avant Léon X, Luther et tout ça. Mais c'est Léon X qui a ramené ça de nouveau au sein de l'Église, surtout pour son projet de faire la basilique de Saint-Pierre. Donc, c'est un petit poème pour expliquer ce que ça veut dire les indulgences. Sitôt qu'il sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole. C'est-à-dire, à peine l'argent a-t-il résonné dans le tronc que l'âme est délivrée du purgatoire et s'envole vers le ciel. Il y avait un système, un enseignement à ce moment-là. Trois possibilités à la fin de sa vie. Bon, on est vraiment excellent, on a tout fait pour Dieu, on va au ciel. On est nul, on a tout fait contre Dieu, on va en enfer. Mais il y avait une troisième possibilité, une troisième piste, qui s'appelle purgatoire. C'est un endroit de punition pour une période, pour après qu'on puisse gagner le ciel. Une chose qui m'a frappé, que je ne connaissais pas trop, quand on parle d'une période de punition, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. J'ai été moitié gentil, moitié méchant dans ma vie. À la fin, Dieu dit, 13 000 ans de punition. OK. Bon, mais mesurer avec l'éternité, ça vaut la peine. Hein. Sauf, un, ce n'est pas dans la Bible. Et deux, c'est quand même 13 000. Hein. Ça fait long, hein. Très long. De punition, de torture. Donc, ce système, c'était une façon de payer, de réduire le temps de purgatoire. Donc, mamie a été géniale. Franchement, mamie, c'était une ange. Hein. Donc, 3000 ans de purgatoire parce que, quand même, elle n'était pas toujours une ange. Presque, mais papy, papy, hein. Papy était gentil une fois sur 10. Hein. Et quand il était gentil, on doutait même, c'est un peu le pourquoi. Hein. Donc, papy, il a 15 000 ans. Hein. Mais il peut aller au ciel, mais 15 000 ans. Mais quand même, c'est papy. Hein. Non, mais vous n'êtes pas les monstres, s'il vous plaît. Hein, c'est papy. Vous savez, 100 euros, ça peut éliminer 1 000 ans. Ou bon, 100 euros, 1 000 euros. Et en fait, les gens payent. Donc, Johann Tetzel, c'était le meilleur vendeur en Allemagne à l'époque. Hein. C'est lui qui a confronté... Ce n'est pas lui personnellement, mais c'est un peu ce qu'il faisait qui a confronté Luther, qui était le gros problème. Tetzel, il allait dans les villages, là, en Allemagne. Il arrive avec la table, avec ce document qui est là. Donc, c'est le pape qui a signé ce document, qui dit, voilà, je suis le pape, je vous donne l'autorité de vendre des années. On peut réduire les années au purgatoire. Tetzel, il avait la table. Donc, un tel arrive, oui. Mon papé, il s'appelait Jacques et il n'était pas toujours très gentil, donc j'ai bien peur qu'il est au purgatoire. Donc, je veux réduire les années de peine. Ah oui, votre papy, j'ai entendu de lui, hein, il n'était pas quelqu'un de bien. Donc, c'est possible qu'il a même 20 000 ans. Hein, donc, oui, je cite le somme, vous pouvez acheter 1000 ans moins pour papy. Ah, ben, et c'était le système. Et ça gagnait bien. Hein. Parce que finalement, on aime tous papy. Hein. On n'est pas aussi sauvage que ça. Et même, ça peut être un ami, un voisin, quelqu'un, un collègue de travail. Et donc, ils sont allés partout et ils ont signé ces documents pour réduire le temps opératoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Parce que vous imaginez aujourd'hui, si je vous dis, on va faire ça à la station métro. Hein. Après, à la fin de cette conférence-là, avec moi, on va aller vendre des trucs pour les gens, pour le purgatoire. Ça va bien se passer, n'est-ce pas? Je vais vous filmer. Hein. Je ne le fais pas, c'est pour un documentaire que je vais faire après. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je vais revenir à ces images-là. On est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a quoi? La peste, la mort. Moyenne de vie, 35-36 ans, quelque chose comme ça. La mort était partout. Hein. Ça, c'est littéralement les images de l'époque. La mort, on ne s'échappe pas. Hein. On est jeune, moins jeune, nouveau-né. Et en fait, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il ne faut pas trop penser que j'ai 36 ans en Moyen-Âge, je vais mourir. C'est de dire qu'il y avait tellement d'enfants morts que ça a baissé énormément le Moyen-Âge. Ça a été très connu au Moyen-Âge d'avoir les gens de 60, 70, 80 ans. Ce n'était pas du tout inconnu. C'est que la plupart des gens, ils meurent entre 0 et 5 ans. Ce qui fait, si j'arrive jamais d'avoir 15, 20 ans, peut-être là, ça peut aller bien après, hein, parce que j'ai échappé à toutes ces maladies. Donc, vous voyez le jeu là, c'est horrible. La maman, elle vient de perdre son cinquième enfant. Et elle sait que ses cinq enfants sont au purgatoire. Elle est convaincue. Et Johann Tetzel, ou le prêtre qui arrive. Même votre enfant qui n'a pas trop fait, je suis désolé, mais ça fait au moins 500, 1000 ans que votre enfant, votre nouveau-né va souffrir. Et madame, que faites-vous? Je sais que vous avez l'argent. C'était horrible la façon qu'ils ont joué avec tout ça. Juste pour l'histoire. En 1517, quand Luther a affiché 95 thèses, on parle de ça tout le temps, hein, c'est l'anniversaire. C'était à cette église à Wittenberg, sur cette porte-là, et voilà la fameuse image. Je vais être très honnête, ça faisait quelques années, deux à peu près, que j'enseignais le cours de la réforme à l'Institut biblique d'Agrange et je n'avais pas lu les 95 thèses. Et un jour, je me suis dit, mais vraiment, t'es bête, hein? Il vaut mieux lire ça. Et quand je les ai lus, j'étais très frappé. C'est beaucoup moins évangélique qu'on souhaite, parce que Luther n'était probablement pas chrétien à ce moment-là. Et les 95 thèses, c'est vraiment un écrit contre les abus des indulgences. Même à ce moment-là, Luther était un peu entre deux pensées. Hein. Il n'était pas entièrement contre l'idée, c'est tellement que ça a été ancré. Mais après, il est devenu carrément contre le principe des indulgences. Mais tout simplement, avec la mort, avec la maladie, tout ce qui est présent, on est continuellement confronté avec un enseignement. Vous allez mourir, mais ce n'est pas certain que vous allez au ciel. Et peut-être Dieu il va vous faire souffrir pendant un temps. C'est pris du XVIIe siècle. Là. C'est un dessin qui était fait en Allemagne. Donc, on est quelqu'un du bien, on monte au ciel, là, avec Jésus. On est quelqu'un du mal, on entre en enfer avec Satan. Mais sinon, encore, cette troisième piste, et ça dépend, on peut peut-être aller au ciel, mais si on ne paie pas correctement sa peine, on peut redescendre en enfer, mais c'est un système vicieux, surtout à cause du contexte historique et culturel, où on a beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, et ça a beaucoup joué dans la mentalité des gens. Et donc, on a une église qui est basée sur ça. Et qui est à la tête de cette église? Léon X, qui aime son argent. Et donc, il a beaucoup joué ce système-là. Et donc, le problème, c'est ce système n'est pas nouveau, c'est historique. Baal, l'Ancien Testament, ou Malouk, il a fallu payer notre Dieu. Avec les sacrifices des enfants, ce qui est véridique, historique, les enfants sacrifiés. Dieu, il est fâché. Dieu, il faut apaiser notre Dieu. Autrement, on dit, il faut gratter le dos de notre Dieu. Et si on gratte assez, il dit, ok, d'accord. Ah, ben là, maintenant, je vous donne un peu. Hein. Merci, ça fait plaisir. Il y avait les fameuses vierges de Rome. La même chose. Hein. Il faut payer pour les sacrifices. C'est fait par les prêtresses, là. Et voilà, Dieu, il est apaisé. L'Égypte, même chose. Mais ce n'est pas tout. Hein. Il y a d'autres fois, d'autres idées. L'hindouisme, il y a un certain aspect d'apaisement d'un dieu, le bouddhisme. Pourquoi on va tous à la Mecque? Pour faire la fête? Tu rigoles? Allah, il est fâché. Vous croyez qu'Allah, c'est un dieu de compassion? Si vous croyez ça, il faut relire le Coran. Hein. Ce n'est pas ça le dieu d'Islam. Et pour apaiser ce dieu, il faut qu'on fasse. Et donc, c'est une phrase que j'ai trouvée, la religion est l'activité qui vise à apaiser les dieux. Mais c'est ça. Hein. Mais Luther et d'autres réformateurs, ils ont trouvé dans la Bible la doctrine de la grâce seule. C'est-à-dire qu'il n'y a que la grâce qui va être efficace pour notre salut. Alors, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Alors, ça veut dire quoi? Et après, on va voir Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Je vais aller assez rapidement parce qu'il faut manger à un moment ou d'autre. Et donc, le plus que je parle, le plus que votre faim va tu prendre. Donc, deux choses le plus rapidement possible. Alors, d'abord, c'est quoi la grâce? Donc, il y a une semaine, pile poil, aujourd'hui, j'ai donné ce message et le fils d'Albert était là. Et donc, j'ai pris le beau-père d'Albert, de Karen, le fils d'Albert, comme un exemple. Donc, Albert, aujourd'hui, c'est ta fête. Hein. Donc, mon exemple, c'est toi. D'accord? Donc, Albert, il achète une nouvelle maison. Il est très content. Ça fait plaisir. Hein. Il change de maison. Et là, après, tout est déménagé et après, tout est rangé dans la maison. Il voit son voisin qui est dans un fauteuil roulant. Il dit, merci Seigneur, comme ça, je peux témoigner à quelqu'un qui a un handicap et je peux vraiment montrer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Je peux être vraiment gentil avec mon voisin. Donc, Albert, il quitte sa maison très tôt le premier jour là. Il a passé une bonne nuit, pas de bruit, pas de mauvais voisins. C'est nickel là. Il quitte sa maison et là, le voisin est là. Dans son fauteuil, dans la chaise là. Ah, oh, mais merci Seigneur, comme ça je peux être très gentil, peut-être je peux même inviter à manger. Elle arrive, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et cet homme, il lève la tête, il dit, t'es moche. Et il tourne sa chaise et il part. Et Albert, ah, il a mal dormi ou il a pris le mauvais médicament ou je ne sais pas trop, mais il faut que j'aille. Le lendemain, Albert se lève tôt, il va vers sa voiture et le voisin est là. Bonjour, comment allez-vous? Et là, il lève la tête. J'ai vu ta femme. Elle est moche. Quoi? Bonne journée et... Mais c'est bizarre. Bon, c'est juste qu'il passe un mauvais moment, ça va changer. Troisième jour, Albert sort de la maison, le voisin est là, il dit, j'ai vu ton fils. Donc, c'est à toi de décider quel fils tu parles, mais il est moche. Ok. Bonne journée. Quatrième jour, il est là. Le voisin est là. Bonjour, j'ai vu ton chien. Il est aussi moche. Et jour après jour, il n'y a que ça. Hein. Il commence avec vous êtes t'es moche, mais après, il emploie les mots que je n'emploie pas, hein, comme vous. Et il insulte, mais avec les gros mots. Et ça devient grave, hein, ça touche au fond de l'âme d'Albert, mais il est blessé. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais être un témoin, je voulais témoigner de Christ. J'avais envie de montrer l'amour de Christ, mais moi, je me fais insulter chaque jour. Et pendant 6 mois, lundi à dimanche, parce que tu vas à l'église quand même, hein, il est là. Chaque matin, il attend la pluie, chaleur, peu importe. Et 6 mois après, on est mi-janvier. Et finalement, il neige presque. Hein, il pleut, mais c'est presque la neige. Et dans ton cœur, tu dis, oh moi, Seigneur, aujourd'hui, tu m'épargnes. Et il est là. Parapluie dans la main. 6 mois d'insultes. Seigneur, pourquoi tu m'as dirigé à acheter cette maison? Mais je ne comprends rien. Et là, cette fois, dans la chaise, là, l'homme, il n'est pas bien placé. Normalement, il est regardé Albert plein dans les yeux pour l'insulter. Et cette fois, la chaise n'est pas tout à fait bien alignée. Donc, il tourne la chaise et il tombe dans la boue. Et Albert, il dit, merci Seigneur, alléluia. Il devient très charismatique. Hein, et il commence à danser presque. Oh, tu réponds aux prières, Dieu. Amen. C'est un peu comme si vous avez vu le film War Room. C'est la dame là, alléluia, comme ça. Et là, il regarde son voisin, couvert de boue, handicapé, paralysé, il ne peut pas se lever. Et qu'est-ce qu'il fait, Albert? Il va l'aider, mais c'est trop vague, il va faire croix. Il prend dans ses bras, il ramène dans sa maison, il le nettoie. Et mes amis, ça s'appelle la grâce. Quand vous voyez le mot biblique, pour moi, ça, c'est mon exemple le plus proche, l'exemple de la Bible, la grâce. C'est-à-dire que dès votre naissance, votre vie, vos pensées, vos paroles, insultez Dieu chaque seconde de votre vie. Tout ce que vous avez fait était simplement et purement les insultes contre un Dieu trois fois saint. Parce que vous êtes né mort dans vos péchés. Et précisément, dans ce moment-là, quand vous êtes le pire, la chose insupportable pour Dieu, il dit, je vais vous nettoyer, je vais vous sauver. Ça, c'est la grâce. Regardez là dans Romains chapitre 5, verset 1, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus. Et là, on applaudit, amen. Hein, moi, je suis sauvé, c'est ça. J'ai la base de la foi, j'ai la paix avec Dieu, c'est par Jésus-Christ que je suis sauvé. Ah, bah, je vais très bien, hein. Ah, ma vie, elle est belle. Et comment ça s'est passé? Regardez verset 6. En effet, alors que nous étions encore sans force, et cette idée sans force, par exemple, dans Philippiens 1 Pierre 5, 10, ça parle du fait que Dieu va vous fortifier. Et donc, on voit cette idée d'être fort, d'avoir plein de force, d'être en forme. Et dans la langue que Paul qu'il écrivait, quand on ajoute une petite lettre A, ça rend le mot négatif. Donc, si vous avez dans votre tête l'idée d'être fort, quelqu'un qui a en pleine puissance, il ne peut pas bouger, il ne peut pas être bougé, il est entièrement, complètement entouré par une puissance, il est fort. Et on regarde complètement l'inverse. Quand on était en effet sans force, Christ est mort pour des impies, des pécheurs. Et encore, ce qui est vraiment fascinant, hein, le mot impie ou pécheur, on voit une forme de ce mot dans Actes 16, ça parle de ceux qui craignaient, adoraient, révéraient Dieu, avec la petite lettre A là, ici dans ce verset. C'est complètement l'opposé de quelqu'un qui est pieux, qui craigne Dieu, qui vit pour Dieu. Quand j'étais complètement, entièrement l'opposé de ça, c'est ça précisément à ce moment-là que Christ est mort pour moi. Sans force, complètement éloigné de Dieu, aucun intérêt pour Christ, aucun intérêt pour Dieu, complètement. Verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, quand j'ai été un ennemi de Dieu, c'est pile poil à ce moment-là que Christ est mort pour moi. Ça, ça s'appelle la grâce. Quand Dieu nous donne ce qu'on n'a jamais mérité. Quand Dieu ne prend pas en compte ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, il dit, là, je vais vous sauver. C'est la grâce. C'est quelque chose d'immérité. Le problème avec Luther, c'est qu'il faisait, il faisait, il faisait, il payait, il payait, il payait. On ne peut jamais gagner. On ne peut jamais faire assez. Avec Dieu, c'est gratuit. Et donc, le salut s'obtient par la grâce et non par nos œuvres et nos efforts. Le salut est un don gratuit de Dieu. Encore, j'espère aujourd'hui que vous êtes sauvés. Mais en 30 secondes, on est aussi commandé de vivre cette grâce quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que je vais vous donner ce que vous ne méritez pas toujours. La grâce. C'est-à-dire que j'ai entendu ce que vous avez dit de moi. Et on va parler de ça, on va régler ça. Mais après, je vais vous montrer l'amour. Ça, c'est la grâce. De donner quelque chose qui n'est pas mérité. Et à chaque fois que vous donnez un traité, chaque fois que vous donnez une Bible, chaque fois que vous parlez de Christ, ce n'est pas parce que l'autre personne est tellement adorable, tellement chouette, tellement gentille. Non, c'est parce que Dieu, il a transformé votre vie. Vous avez reçu cette grâce. Et là, maintenant, on veut redonner cette grâce. J'ai menti, j'ai dit 30 secondes. 45 secondes. Donc, j'ai 15 secondes qui restent. Si vous êtes toujours avec vos parents, ou avec la famille, ou vous êtes marié, ou vous vivez en communauté. Sans cette grâce, vous êtes cuit, franchement. Hein. On ne peut pas vivre comme il faut sans cette grâce. Parce que si vous passez 10 minutes avec moi, vous allez voir qu'il y a soit un détail qui vous énerve, ou carrément une grosse faute que vous voyez. On est tous imparfaits. Mais par cette grâce, on peut vivre ensemble, on peut vivre quand on veut, quand on doit vivre. Donc, Luther, par l'Esprit de Dieu, il a découvert dans la Bible ces deux doctrines et c'est là qu'il enseignait pour réformer et pour transformer l'Église, la foi et la grâce. Prions. Encore Seigneur, on te remercie pour ces instants. On te remercie Seigneur pour ta présence parmi nous. Je prie Seigneur ce matin si un de nous ne te connaisse pas encore Seigneur. Je prie que l'Esprit de Dieu travaille dans son cœur. Mais aussi Seigneur, je prie que tu nous montres comment on doit vivre la foi et la grâce quotidiennement. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour Luther, pour cette histoire. Et merci pour ce que tu as fait dans l'Église. Amen.